Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il incarne pour beaucoup le monstre politique par excellence, froid et intrigant. Il a, à sa manière, préparé la voie à Louis XIV et au grand siècle, servant son roi avec une loyauté sans faille. Je vous raconte maintenant le cardinal Armand Jean Duplessis, duc de Richelieu. En histoire comme ailleurs, il y a des légendes noires, des légendes roses et des légendes dorées. Celle qui entoure le cardinal de Richelieu est d'une autre couleur encore, le rouge. Dans notre imaginaire, le cardinal est à jamais cet homme impassible, aux bras croisés, enveloppé de rouge, qui observe le port de La Rochelle depuis la digue. Et le célèbre tableau du peintre Henri-Paul Motte n'est pas le seul à avoir imposé ce portrait. Alexandre Dumas et ses trois mousquetaires sont passés par là. Et l'affrontement entre le jeune D'Artagnan, l'impitoyable cardinal, et sa créature, Milady, lui ont inspiré quelques-unes de ses pages les plus fameuses. Victor Hugo y est aussi pour quelque chose avec un vers célèbre tiré de la pièce Marion Delorme. Grâce ou à cause d'Hugo, Richelieu est à jamais l'homme à la main sanglante, à la robe écarlate. Mais ce cardinal retors, calculateur, impitoyable et froid, est d'abord un cardinal de fiction, une image qu'il a d'ailleurs lui-même contribué à forger, celle d'un homme qui incarne la raison d'État. Le véritable Richelieu, lui, est évidemment plus complexe que sa légende, mais il reste une évidence. On n'atteint pas les plus hautes sphères du pouvoir sur un coup de dé, et on ne devient pas pour 20 ans le principal ministre de Louis XIII par hasard. Son arrivée au sommet pourrait d'ailleurs sembler presque tardive. En 1624, quand il entre au Conseil du roi, Richelieu a déjà 40 ans. Lui, qu'on destinait au métier des armes à sa naissance, a dû se tourner vers la carrière ecclésiastique pour conserver le bénéfice de l'évêché de Luçon dans le Poitou, dont il devient l'évêque en 1606. Sur le papier, ce n'est guère un cadeau, et Richelieu, qui est né et a grandi à Paris, le dit lui-même. « Je vous puis assurer que j'ai le plus vilain évêché de France, le plus crotté et le plus désagréable. » Mais qu'importe, théologien averti et catholique convaincu, Richelieu assure sa charge avec un parfait sérieux. Au moment de la contre-réforme, lorsque l'Église romaine cherche à combattre l'influence du protestantisme, il publie l'Instruction du chrétien, un catéchisme clair et concis destiné aux fidèles. Mais ce ne sont pas ses talents de prêtre de province qui le font repérer. Si la reine-mère Marie de Médicis le remarque, au cours des états généraux de 1614, où il siège sur les bancs du clergé, c'est bien pour sa clairvoyance et pour son habileté politique. Et bien avant d'intégrer l'entourage de Louis XIII, c'est dans le sillage de Marie de Médicis que Richelieu entame son ascension, parfois contrariée d'ailleurs, par les relations quelque peu tumultueuses entre le roi et sa mère. Mais en 1624, quand le cardinal entre au Conseil royal, il est fin prêt pour servir le roi. Sur le plan intérieur, la consolidation du pouvoir royal figure justement en haut de la liste des priorités du roi comme de son cardinal. Catholique sincère, Richelieu n'oublie jamais que le roi de France règne de droit divin. Son rôle à lui, ministre d'un tel souverain, consiste à renforcer ce pouvoir, quitte à se heurter à la haute noblesse d'une France où les usages et les coutumes des temps féodaux n'ont pas disparu. La lutte entre le cardinal et les grands du royaume se déroule à fleur et mouchetée parfois, à couteau tiré souvent, et au sens littéral. Bien des grands, à commencer par le frère du roi, Gaston d'Orléans, rêvent ouvertement de la mort de ce ministre qu'on accuse de mettre à bas la société traditionnelle et d'usurper le pouvoir royal. Les complots succèdent aux cabales, mais le cardinal de Richelieu réagit avec fermeté, convaincu que la France a tout à gagner en mettant au pas ces grands personnages dont les luttes et les ambitions contrarient la modernisation du royaume. Quitte à détruire les vieux châteaux forts du pays, symbole d'une féodalité d'un autre temps, à bannir et à disgracier les plus turbulents ou à faire tomber l'âge du bourreau à plusieurs reprises. Pour avoir tenté de tuer le cardinal, Chalais est exécuté en 1626. Et d'autres suivent, des maréchaux comme Louis de Marillac, des ducs comme Henri de Montmorency, pourtant filleul d'Henri IV, ou des conspirateurs comme Saint-Marc et de Thou, exécutés quant à eux pour leur lien avec l'Espagne. Le cardinal lutte aussi contre les protestants. Le siège atroce de La Rochelle, qui finit par se rendre en 1628, après avoir perdu 80% de sa population, en est à la fois le pic et le symbole. La Rochelle concentrait en somme tout ce que Richelieu reproche au camp protestant, devenu avec le temps un véritable État dans l'État, capable de passer ses propres traités avec l'Angleterre, de tenir ses propres forteresses, de créer ses propres assemblées et de mener une politique quasi indépendante. Ce qui est intolérable pour le cardinal, qui déploie toute la puissance militaire française pour faire plier le camp protestant. En 1629, un an après la chute de La Rochelle, c'est fait. Les forteresses protestantes sont démantelées, les privilèges politiques des Huguenots sont supprimés et l'autorité royale en sort renforcée. Le seul pas que Louis XIII et son ministre ne franchissent pas, c'est celui que fera Louis XIV plus tard. Poussé par Richelieu, le roi ne révoque pas l'édit de Nantes et les protestants conservent leur liberté de culte. Et c'est là tout le paradoxe de l'affaire. Alors que Richelieu n'a pas fait dans la dentelle avec les Huguenots, certains vont lui reprocher ce qu'il voit comme une tolérance qui frise la faiblesse. Au lendemain de la prise de La Rochelle, la position du cardinal de Richelieu reste vulnérable face au parti des dévots emmenés par la reine-mère. Deux visions s'affrontent alors. Pour Marie de Médicis, en finir avec le protestantisme suppose de soutenir l'Espagne, seule capable à ses yeux de restaurer l'unité de la chrétienté. Mais Richelieu, lui, s'inquiète de l'hégémonie d'une Espagne présente déjà en Italie, en Sicile, aux Pays-Bas, en Franche-Comté et sur le Rhin. À Madrid et à Vienne, la maison des Habsbourg menace d'encercler la France. C'est d'abord cette menace qui inquiète le cardinal au point de l'amener à s'allier avec ou les ennemis d'hier, comme l'Angleterre, ou des États protestants, au nom d'un principe qu'on pourrait résumer ainsi « les ennemis de mon ennemi sont mes amis ». Mais tenir cette ligne, c'est s'opposer à la fois au pape et à la très influente reine-mère. Le 10 novembre 1630, Richelieu se croit perdu lorsque la reine exige auprès de son fils la destitution de cet ancien protégé qu'elle déteste à présent, au point de le traiter de valet, d'ingrat, de fourbe et de traître. Partagé entre la piété filiale et la raison d'État, Louis XIII tranche en faveur du valet au matin du 11 novembre, au terme de ce qu'on ne tarde pas à appeler la journée des dupes. Alors que Marie de Médicis triomphe déjà, elle apprend stupéfaite que Richelieu est confirmé dans ses fonctions. Pire encore, c'est elle qui doit prendre les chemins de l'exil. Pour encore 12 ans, le cardinal de Richelieu reste le seul maître à bord après Dieu et le roi. Beaucoup le détestent jusqu'à la haine, tant il incarne le caractère implacable de la machine étatique. Mais Richelieu l'assume entièrement, convaincu d'une chose, je le cite, « la politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire, quitte à employer la violence et l'intrigue si besoin. » Cette indéniable froideur fait que l'image ambiguë qu'il a toujours aujourd'hui est déjà présente à sa mort en 1642, comme si tirer le bilan de son action était impossible, comme si l'homme était trop complexe pour qu'on tranche. C'est peut-être Corneille, finalement, qui l'aura dit le mieux. Il a trop fait de mal pour en dire du bien. Il a trop fait de bien pour en dire du mal.
Europe 1, historiquement vôtre.